France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1985, quelques mois avant de disparaître, le poète, romancier et critique d'art Jean Cassou, qui fut aussi résistant et fondateur du musée d'art moderne de la ville de Paris, accordait une série de 5 entretiens à l'écrivain oulipien Jacques Binns. Dans le troisième temps de cette rencontre, il racontait la naissance de sa vocation d'écrivain avant de méditer sur quelques figures du génie littéraire. Pourquoi l'un des plus grands poètes de tous les temps fut-il un affreux moutard, s'interrogeait-il, au-dessous de l'âge de raison, qui, dans une ville de province absolument recuite par l'esprit le plus stupide, écrit des poèmes extraordinaires dont l'un s'appelle « Bateau ivre ». Et pourquoi, d'un autre côté, un petit jeune homme de bonne famille, mondain, timide, charmant, le petit Marcel, considéré avec sympathie et indulgence dans son milieu, se révèle-t-il finalement être l'un des plus grands romanciers qui ait jamais été ? C'est là la contingence et l'aventure du génie, répondait-il, et aussi son mystère, qu'il contemplait dans cette conversation diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1985.
La vocation d'écrire, entretien avec Jean Cassou, par Jacques Binns, réalisation Odile de Pontual, collaboration technique Agnès Boissonnade et Jean Daniel. Dans cet extraordinaire mouvement de transformation, vous entrez-vous par la littérature ?
Oui, par la littérature, mais alors, évidemment, par des poèmes, je faisais des nouvelles, j'écrivais dans les revues d'avant-garde. J'ai été un des écrivains de la Nouvelle Revue Française, n'est-ce pas, au temps où la Nouvelle Française a commencé.
Vous vous souvenez de votre premier texte publié ?
Mon premier texte publié ? Eh bien, écoutez, parmi mes premiers textes publiés, je crois qu'il y a surtout des articles de critique d'art.
Ah bon ?
Ah oui, parce que nous étions, enfin, tous les jeunes esprits de ce moment-là, et nous étions des écrivains, nous étions des poètes, on faisait de la poésie, et puis il y avait le surréalisme, il y avait Dada, il y avait toutes les révolutions littéraires de ce moment, puis Proust, Valéry, Joyce, etc. Bien, mais il y avait aussi les révolutions de la peinture, comme il y avait les révolutions de la musique, n'est-ce pas ? C'était l'époque des Six, et c'était l'époque de Stravinsky, des ballets russes. Enfin, vous savez, l'impression fabuleuse qu'ont produite les ballets russes. Diaghilev est un des hommes qui ont eu la plus énorme influence sur l'évolution du goût et la révolution du goût de ce moment-là, c'est certain. Et les ballets russes ont été pour moi, enfin, une émotion prodigieuse. La découverte vraiment d'une nouvelle expression, d'un nouveau mode d'expression. Et vous savez à quel point les ballets russes ont passionné et les écrivains, et les artistes, et les plasticiens. Et il a été fait appel à eux pour cette espèce de Gesamtkunst qui a été les ballets russes à Paris. Mais je crois que les premières choses que j'ai écrites, c'était des articles de critique d'art, parce que ma génération s'est passionnée pour le cubisme et pour les premières manifestations de la révolution plastique de l'époque qui faisait scandale. Qui faisait scandale comme la musique faisait scandale, comme Debussy avait fait scandale, et après Debussy, Stravinsky, ils avaient été sifflés.
Vous faites partie de ces hommes qui ont traversé, enfin de ces hommes et de ces femmes, qui ont traversé une époque extraordinaire, même plusieurs époques très riches, sans en être tellement modifiés. Il est curieux de constater, c'est très facile à faire, que alors que vous fréquentiez des milieux très actif sur le plan de la littérature, de l'art, notamment les surréalistes, par exemple. Vous avez eu des amis qui étaient des écrivains, des peintres, des musiciens, etc., tout proche de ça. Votre œuvre personnelle est complètement personnel. Ce n'est pas du tout un pléonasme que je fais là.
Je vous en remercie.
Après. On trouve très peu de références surréalistes, notamment, dans ce que vous avez écrit, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que, oui. à ce que vous faites exactement partie de la génération oui. qui aurait dû être immédiatement oui. influencée.
Eh bien, je crois que je fais partie de quelques rares écrivains de ce moment-là qui, avant tout, étaient occupés de leur art personnel, se passionnaient pour ce qui se passait de leur temps et qu'ils comprenaient admirablement et aux intentions de quoi ils participaient de tout leur cœur, mais qui n'ont pas fait partie du groupe surréaliste, qui n'ont pas fait partie de l'école surréaliste, du système surréaliste, n'ont pas assisté aux offices et aux cérémonies et à tous les rites du surréalisme auxquels présidait le génie autoritaire d'André Breton, avec qui j'ai toujours été en termes excellents. Mais j'en ai été cordialement, intimement, spirituellement, j'en ai fait partie. Je suis, et je me suis toujours déclaré, surréaliste d'esprit. Toutes sortes d'écrivains ont participé ainsi au surréalisme sans faire partie de l'Église, de la chapelle, puisque ce qui nous déplaisait à des esprits comme moi, c'était justement l'esprit de système. Mon Dieu, c'est ça ce qui nous arrêtait devant le surréalisme. Jamais nous ne sommes inscrits dans aucun groupe d'avant-garde, devenu groupe officiel, de même que je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. Je ne me suis jamais inscrit dans aucun parti politique, mais j'étais entièrement d'accord avec l'action, la pensée et les aspirations des groupes politiques les plus avancés de mon temps.
Puisque vous avez tranquillement, ou pas forcément tranquillement d'ailleurs, tracé votre chemin tout seul, même si vous n'étiez pas isolé,
oui.
je crois qu'il est légitime de vous poser la question, pour autant que vous le sachiez, quel a été le moteur de votre existence depuis le moment où vous avez décidé d'avoir des activités artistiques ? Est-ce que ça existe ?
Oui, ce que vous essayez de définir dans vos derniers mots se définit tout simplement par le mot vocation. Vocation.
C'est une vocation.
J'ai eu une vocation. J'ai senti une vocation, c'est-à-dire le besoin d'une certaine action intellectuelle, le besoin d'accomplir certaines opérations d'intellectuel et par conséquent des opérations artistiques créatrices.
Mais la vocation,
d'être un poète.
La vocation, c'est le point de départ. Après, qu'est-ce qui continue à animer ça pendant des années ?
La vocation.
Ça continue ?
Mais naturellement, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, ça continue. N'est-ce pas ? Moi, je pense que le goût de créer et le goût, par conséquent, de développer l'affirmation de quelque chose que l'on sent en soi et que l'on peut appeler sa personnalité, sa vocation, son destin. Tout ceci est extrêmement ancien, à quelque chose de congénital, et remonte aux temps les plus obscurs qui précèdent les premières obscurités de la prise de conscience et du commencement de l'existence, c'est-à-dire l'époque prénatale. Et puis voilà. Et puis alors ceci se développe sous certaines formes, avec diverses aspirations, qui amènent à des réflexions, à des interrogations, à des analyses, à des critiques, et à la prise de contact avec l'autre, les autres, avec ce qui se fait, avec ce qui se produit, et avec ce qui s'est fait et ce qui s'est produit, c'est-à-dire avec l'univers prodigieux de la culture. Mais tout ceci se fait très naturellement, très naturellement. L'opération créatrice, en quelque domaine qu'elle se produise, que ce soit en musique, que ce soit en peinture, que ce soit par des sculptures, que ce soit par des monuments d'architecture, que ce soit par des galeries princières, que ce soit par des poèmes, que ce soit par des romans, que ce soit par des essais critiques et philosophiques, tend évidemment à établir des définitions et des schémas de la création artistique et de l'œuvre artistique, de l'œuvre ainsi produite, soit de l'opus, du poème, de la symphonie, du temple, du palais, de la maison, du jardin, de tout ce que produit l'inspiration créatrice, bon, qui essaye de faire un schéma de toutes ces choses-là et d'étudier les œuvres d'art du passé, du présent et des œuvres d'art promises à l'avenir et pressenties pour l'avenir, à les traduire par des schémas, par des analyses critiques extrêmement simples et simplifiantes, par des désignations et des dessins, des configurations. Il s'agit de configurer une œuvre d'art. Alors, vous êtes en présence d'une œuvre d'art qui vous paraît singulière. Et elle peut être d'un peintre célèbre, elle peut être de Raphaël, mais elle peut être aussi d'un de ces nouveaux peintres qui apparaissent à ce moment-là, qui sont vos camarades de la Rotonde, ou qui sont l'œuvre de ces génies méconnus, misérables et tragiques, genre artistes maudits, Van Gogh ou Gauguin. Bien. Alors, quand on a connu tout ça, là, on sait que l'intellect doit tenter de fournir une explication à de pareils phénomènes et par conséquent de chercher des configurations de ces œuvres-là, de ces œuvres aussi étonnantes qu'elles soient. Avec le premier salon des impressionnistes en 1874, où on s'est tordu de rire devant des œuvres signées Renoir et Claude Monet. Enfin, mais tordu de rire, crise d'hilarité extraordinaire. Il faut lire les articles de la presse bourgeoise de ce temps, la presse bourgeoise de toute la presse de ce temps-là, c'est ahurissant. Bon, eh bien, il y avait tout ça. Il y avait tout ça. Or, toute cette bourgeoisie, tous ces salons pompiers, tout ça, ça n'a rien laissé du tout. Vous ne pouvez pas me donner le nom d'un artiste pompier.
Bougereau.
Bah oui, bah c'est. Bah alors justement, c'est nous qui rions. Voilà. N'est-ce pas ? Nous avons rigolé tous les deux en même temps. Ouais. N'est-ce pas ? Parce qu'en effet.
Peut-être dans 50 ans, on rigolera.
C'est à quoi se tordre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une illusion que se font les bourgeois. Ah ben vous voyez, on a ri de Bougereau et puis on a du mal de la Tour Eiffel. Bah oui, mais. On a eu du mal à la Tour Eiffel, en effet, mais je trouve ça scandaleux, je trouve ça très grave, très grave. C'est un manque de conscience et un manque de relation de soi à l'époque qui est gravissime, qui est criminel. Et quand on pense au scandale qu'a provoqué la Tour Eiffel, on rougit de honte maintenant, étonné que c'est un des plus grands monuments, un des plus beaux qui ait jamais été inspiré au génie humain. Bon. Alors, toutes ces polémiques, n'est-ce pas, sont dépassées, sont passées. Et on sait qu'une chose importe, avant tout, c'est la création, c'est l'originalité, c'est créer quelque chose qui peut faire scandale parce que c'est nouveau. Oui, mais ça fait scandale. Alors, ces formes de scandale sont extrêmement diverses. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Proust. Mais quelle différence y a-t-il entre Proust, mon Dieu, qui a écrit comme tout le monde, qui vendait ses livres, etc., n'est-ce pas, et par exemple Joyce, n'est-ce pas, dans la littérature, est au contraire extrêmement difficile. Je dis, mais c'est ça justement qui fait l'essentiel de la subversion, c'est qu'elle n'est jamais la même. Dès que la subversion devient la même, ça devient de la mode. Ça devient une mode, n'est-ce pas? Vous savez, on imite Picasso et on fait des Picasso parce qu'on pense que Picasso est à la mode, que si on fait les mêmes choses que lui, on va gagner beaucoup d'argent. Ce qui est stupide, ce qui est un raisonnement absolument stupide. Alors, Proust constitue une subversion parce que ça constitue une aventure. C'est quelque chose d'absolument contingent et qui aurait pu ne pas être. Pourquoi est-ce que l'un des plus grands poètes de tous les temps, c'est un affreux moutard, mais au-dessous de l'âge de raison, qui, dans une ville de province, absolument recuite par l'esprit le plus bourgeois, le plus stupide, le plus provincial, le plus idiot, un affreux petit voyou qui a tous les vices et qui est capable des pires abjections, écrit des poèmes extraordinaires, dont l'un s'appelle Bateau ivre, et quand ce poème est envoyé en manuscrit aux poètes qui sont à Paris à ce moment-là, il bouleverse tout le monde. Il bouleverse tout le monde, et l'on dit, mais c'est le plus grand poète qui ait jamais été. Mais personne n'a écrit en français comme cet affreux petit voyou. Alors quoi ? Quel hasard, quelle aventure a produit ça ?
Il a quand même un souci de la provocation.
Comment ?
Il a un souci de la provocation.
Il a un souci de provocation, c'est évident. Mais cette provocation est géniale. Elle lui fait faire des choses géniales. Il est le bateau, n'est-ce pas ? Le choix de ses titres et tout ça est symbolique, n'est-ce pas ? Bateau ivre, c'est symbolique. Il est un bateau ivre. Évidemment, un bateau ivre, ça n'est pas comme un bateau mouche, n'est-ce pas ? C'est autre chose. D'un autre côté, vous avez un bon petit jeune homme de très très bonne famille, de vieille grande famille parisienne, tout à fait à la mode, qui est parent et ami de toutes les plus puissantes personnalités de la haute société de son temps, qui est le petit Marcel. Petit jeune homme, très comme ça, mondain, timide, charmant, que l'on considère avec sympathie et un peu d'indulgence dans son milieu mondain, dans sa famille. Et puis il commence à écrire timidement des choses. Il se révèle être l'un des plus grands romanciers qui ait jamais été. L'égal de Balzac, l'égal de Stendhal, l'égal de Dickens, l'égal de Tolstoï, un romancier prodigieux. Il n'a jamais voulu s'opposer à quoi que ce soit, n'être subversif en quoi que ce soit, etc. C'est un être génial, comme Rimbaud était un être génial. Le génie, cette fois-là, est tombé sur ce jeune homme du monde, n'est-ce pas ? Comme il est tombé sur ce jeune voyou d'une ville de province absolument reculée et perdue. C'est comme ça. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez y faire ? C'est nous qui analysons après ça, qui essayons de voir un peu qu'est-ce que c'était que le milieu de Rimbaud, qu'est-ce que c'est en réalité le milieu de Proust, mais pourquoi est-ce que c'est Arthur Rimbaud, pourquoi est-ce que c'est Marcel Proust qui sont les exécutants de cette puissance de l'énergie créatrice qui flotte dans l'air et puis qui tout à coup tombe sur un coin de la terre, sur un coin de province française ou sur un coin d'un milieu social parisien. Pourquoi ? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, enfin c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la contingence et l'aventure du génie qui veut cela.
C'était Jean Cassou ou la vocation d'écrire, troisième volet d'une série de 5 entretiens menés par Jacques Binse, diffusé pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1985. À suivre.